Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, nous allons poursuivre avec la localisation de la source sonore et nous intéresser aujourd'hui à la localisation qui est fondée non pas sur une écoute binaurale, mais monaurale. Alors, auparavant, je vais reprendre certains éléments pour les replacer dans leur contexte général, qui ont été exposés lors du cours précédent. Alors, nous nous sommes en particulier intéressés à la localisation des sources sonores. Je vois qu'il y a des erreurs. Aux sources sonores fondées sur la disparité d'intensité qui est celle qui est mise en œuvre pour localiser les sources sonores haute fréquence. Après, Lord Rayleigh et sa théorie duplex de localisation des sources sonores dans le plan horizontal en 2007, l'existence de deux circuits neuronaux distincts traitant respectivement la localisation des sources sonores basse fréquence et des sources sonores haute fréquence dans le plan horizontal, dit aussi azimutal, a été établi. En 1967, nous avons vu que Masterton et Diamant, proposèrent deux mécanismes distincts de localisation et donc ces deux fameux circuits neuronaux distincts. Et les auteurs précisaient en particulier que la localisation fondée sur le délai temporel interoral était traitée au niveau du complexe olivaire supérieur dans l'olive supérieure moyenne. Et un an plus tard, Boudreau et Tsuchitani identifiaient chez le chat des neurones qui répondent cette fois-ci à la disparité de niveau sonore, d'intensité sonore interoral, dans les deux cas, neurones de l'olive supérieure médiane ou de l'olive supérieure latérale, il s'agit de neurones binauraux. Alors, pour ceux qui nous ont intéressés lors du dernier cours, ceux de l'olive supérieure latérale, sont activés ceux qui sont ipsi, en position ipsilatérale par rapport à la source. Ils reçoivent du côté ipsilatéral des afférences excitatrices, ici symbolisées donc en position immédiatement adjacente à la source par ces neurones dont le corps cellulaire est vide. Et ils reçoivent d'autre part, venant du côté contralatéral, nous allons le revoir, des afférences inhibitrices. Alors, ceci faisait écho à des travaux antérieurs de Goldberg, Smith et Adrien qui montrèrent dès 1963 que la décharge des neurones de l'olive supérieure latérale, qu'elle soit spontanée ou provoquée par le son, est inhibée si on présente un son à l'oreille contralatérale. Donc, au total, on peut résumer comme suit les deux circuits neuronaux qui sous-tendent la localisation de la source sonore dans le plan horizontal, l'un fondé sur le délai temporel interoral schématisé en bas, abrégé en ITD, et l'autre fondé sur la disparité de niveau sonore schématisé en haut. En ce qui concerne la disparité d'intensité sonore, son traitement, donc ipsilatéral par rapport à la source, s'effectue, je vous le répète, dans les neurones binauraux de l'olive supérieure latérale, indiqués ici par LSO et en orange, donc avec en rouge les signaux excitateurs venant du côté ipsilatéral et les inhibiteurs venant du côté contralatéral. Alors, ce que nous avons noté, c'est que dans les noyaux entéro-ventraux, les cellules qui sont mises en jeu dans ce circuit sont
qu'il s'agisse du côté ipsilatéral ou contralatéral, des neurones ou cellules dites en buisson. Mais elles ne sont pas du même type du côté ipsilatéral à la source et du côté contralatéral à la source. Du côté ipsilatéral, ce sont des neurones en buisson dits sphériques et du côté contralatéral, des neurones en buisson dits globulaires. Alors, vous le voyez, les neurones en buisson globulaire font relais dans cette structure ici indiquée en vert, le noyau médian du corps trapézoïde, qui, lui, donc, comporte des neurones inhibiteurs, indiqués en bleu, qui vont se projeter sur les neurones binauraux de l'olive supérieure latérale. Alors, la morphologie des neurones binauraux est, dans les, on va le voir, aussi bien dans l'olive supérieure latérale que dans l'olive supérieure médiane. Donc, centre de traitement du délai temporel interoral sont dans les deux cas des neurones binauraux fusiformes avec des arbres dendritiques à chacune des deux extrémités. Alors, vous avez ici donc le schéma du circuit qui correspond à la détection du délai temporel. Donc, on voit bien que tout se situe dans l'olive supérieure médiane de façon contralatérale à la source avec un circuit très différent puisque lui arrive des deux côtés, semble-t-il, des afférences excitatrices en rouge, des afférences inhibitrices en bleu. Et que dans les deux cas, les afférences excitatrices viennent, qu'elles soient ipsilatérales ou contralatérales, des neurones en buisson sphérique. Alors, voici juxtaposés les deux types de circuits et donc aussi le mode de synapse, le mode des synapses effectuées sur ces neurones binauraux. Dans l'olive supérieure latérale, les afférences excitatrices se terminent sur les dendrites, les afférences inhibitrices sur le corps cellulaire. Dans le circuit qui mesure le délai temporel entre les deux oreilles, ce sont afférences inhibitrices et excitatrices qui viennent se terminer sur chacun des arbres dendritiques, ipsilatéraux et contralatéraux. Alors, nous avons vu, je vais passer rapidement, et là, je me concentre exclusivement sur ce qui a rapport avec ce que nous avons discuté la semaine dernière, c'est-à-dire le circuit de détection de disparité d'intensité sonore. Eh bien, nous avons vu qu'il a été montré qu'ils mettent en jeu des neurones inhibiteurs qui sont accordés en fréquence comme le sont les neurones excitateurs. Puis nous avons vu un travail de Moore et de Caspary qui établissait le fait que les neurones inhibiteurs de ce circuit sont des neurones de type glycinergique. Nous avons ensuite vu que ce circuit qui détecte la différence d'intensité du son parvenant à l'une et l'autre oreille n'était pas un simple circuit de détection d'intensité, mais qu'il était aussi capable de détecter des disparités temporelles. Alors, comment ceci a été montré ? Ceci a été montré en s'intéressant à des signaux haute fréquence, donc qui vont être traités dans le système de différentes disparités d'intensité dont j'ai parlé, mais ce sont des signaux haute fréquence qui sont modulés en amplitude et modulés à un taux de fréquence bas. Dans une telle situation, on peut montrer que ce circuit dit détecteur en quelque sorte de disparité d'intensité sonore se comporte pour ces signaux haute fréquence modulés en amplitude et à fréquence faible aussi comme un circuit de détection de différences temporelles. De sorte que ce circuit de l'olive supérieure dans lequel les neurones binauraux reçoivent des afférences excitatrices et inhibitrices, ces neurones sont un centre d'intégration de ces deux types de signaux qui, s'ils ont la même valeur, s'annulent. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que s'il y a modulation en amplitude à fréquence basse de ces signaux haute fréquence, on peut détecter donc ce délai, soit les ondes venues du côté inhibiteur et excitateur arrivent de façon concomitante, l'une étant de signe plus, l'autre de signe moins, les neurones de l'olive supérieure ne déchargent pas. En revanche, si les deux signaux sont décalés en phase, on aura une combinaison des signaux positifs et négatifs. Alors, c'est posé la question de la possibilité pour les neurones binauraux de l'olive supérieure latérale de recevoir des signaux concomitants. Comment est-ce possible alors que le chemin neuronal est extrêmement différent entre les influx qui viennent du côté ipsilatéral, où le chemin est très court, le chemin neuronal, versus contralatéral, où il est très long. Et un des éléments de réponse est le suivant. D'un côté, ici, vous avez donc sont stimulés des neurones globulaires sphériques et de l'autre côté, des neurones en buisson sphérique et ici, des neurones en buisson globulaire. Eh bien, le diamètre des axones de ces deux types de neurones est très différent. Lorsqu'il s'agit des neurones en buisson sphérique, leur diamètre est fin. En revanche, les neurones en buisson globulaire ont un diamètre épais. Et de ce fait, la vitesse de conduction n'est pas la même. Elle est extrêmement différente. Plus le diamètre du neurone, de l'axone, est important, plus la conduction est rapide. C'est ce qui explique que vont pouvoir converger en une période de temps quasiment identique, les influx excitateurs et excitateurs puis inhibiteurs venant du côté contralatéral. Alors, s'y ajoute une deuxième énigme, qui est le fait que du côté contralatéral, on a en plus de ça un relais synaptique supplémentaire, donc dont on s'attend qu'il freine considérablement le temps de propagation de l'influx à partir du côté contralatéral, eh bien, il se trouve que cette synapse est une synapse tout à fait particulière, c'est la synapse du calice de Held qui fonctionne de façon particulièrement rapide. Alors, nous avons vu enfin que ce circuit qui mesure donc à la fois la disparité d'intensité et la différence temporelle pour les ondes haute fréquence modulées en amplitude basse fréquence, était fonctionnellement aussi couplé à la valeur absolue de la stimulation sonore. Les taux de décharge de ces neurones binauraux varie non seulement en fonction de la disparité d'intensité, mais aussi en fonction de la valeur absolue de l'intensité sonore. Alors, nous nous sommes interrogés sur la part respective qu'occupe ce circuit dans la détection des signaux de disparité d'intensité et des signaux de délai temporel. Et la réponse est claire. Ce qui domine dans l'activité de ces neurones lorsque sont introduits à la fois des délais temporels et des disparités orales, d'intensité orale, c'est la détection de la disparité d'intensité orale. Alors, voici brièvement résumé donc les éléments que nous avons discutés la semaine passée avec cette figure qui vous rappelle que pour qu'il y ait activité des neurones binauraux, il faut donc qu'il y ait coïncidence dans le temps de l'arrivée des influx excitateurs et inhibiteurs et que ceci se fait sur une petite fenêtre qui dépend des espèces mais qui est de l'ordre dont le temps est au total d'environ 600 microsecondes chez le chat. Puis nous avons mis en place, et je vais y revenir très superficiellement, un élément supplémentaire de la régulation de la disparité d'intensité dans ce circuit qui, si vous l'avez noté, sans doute vous l'avez noté, tel que je l'ai présenté est extrêmement simple. Signaux excitateurs d'un côté, signaux inhibiteurs de l'autre. Bon, il n'y a pas de circuit, aucun circuit neuronal n'est aussi succinct que cela. Alors, on s'attendait donc à ce qu'il y ait une régulation du circuit, et c'est ce qui a été mis en évidence par Anna Magnusson dans le laboratoire de Cor, associé au groupe de Benedict Gross. Il s'agit d'un élément de rétrocontrôle inhibiteur qui s'exerce sur les afférences excitatrices et inhibitrices. Alors, comment ceci a été montré ? Ceci a été montré en utilisant un analogue du BAPTA, le baclofène. On voit que lorsque sur tranche on ajoute du baclofène, le taux de décharge des neurones binauraux ici baisse. Les auteurs ont été amenés à conclure que ce qui se passe, c'est qu'il y a libération du GABA par les neurones binauraux qui vient inhiber à la fois les afférences excitatrices et inhibitrices qu'il reçoit. Ceci se fait par la présence de récepteurs métabotropiques du GABA qui sont situés sur ces deux types de neurones, les récepteurs GABA-B. Il a été montré dans une expérience particulièrement élégante que si l'on applique une pré-stimulation à ces neurones de l'olive supérieure, eh bien, l'effet inhibiteur est accru. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que ce que l'on appelle la pré-stimulation, le préconditionnement, a permis la libération du GABA qui a donc agi en rétrocontrôle sur lui-même. Alors on peut montrer qu'il s'agit d'une libération vésiculaire. Pourquoi ? Parce que si on traite les neurones binauraux de l'olive supérieure à la fois par le BAPTA, un chélateur du calcium, et le calcium est indispensable pour la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique. On n'a plus l'effet. Même chose si on met ces neurones en présence de toxines botuliques qui inhibent le complexe SNAR, indispensable à la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique. Donc, libération du GABA qui vient se fixer sur ces récepteurs métabotropiques sur les neurones excitateurs et inhibiteurs qui, en retour, ont donc une activité qui est moindre, comme le montrent ici les potentiels excitateurs en présence de baclofène qui diminuent, les potentiels inhibiteurs aussi, mais notez bien que les potentiels excitateurs en présence donc de cet analogue du GABA sont davantage inhibés que les potentiels inhibiteurs. D'où l'effet global d'inhibition. Donc, l'ensemble évoque un circuit donc, de rétrocontrôle négatif dans lequel les neurones binauraux de l'olive supérieure latérale étant stimulés libèrent du GABA au niveau de leur dendrite qui se fixe sur les récepteurs métabotropiques des afférences excitatrices et inhibitrices qui voient leur activité baisser, mais davantage pour les afférences excitatrices qu'inhibitrices. Donc, au total, ceci s'apparente à un mécanisme d'adaptation. Et le schéma qui est proposé est le suivant, dans lequel vous avez ici donc un neurone binaural de l'olive supérieure latérale avec ses afférences excitatrices de type glutamatergique en rouge et ici une afférence inhibitrice glycinergique, donc celle-ci faisant synapse sur les dendrites et celle-là sur le corps cellulaire. Et donc, en retour, une inhibition par le GABA. Alors, sachez que ce n'est pas un exemple unique, qu'à d'autres, dans d'autres circuits neuronaux du système nerveux central, il existe, comme ceci, des mécanismes de rétrocontrôle sur les présynapses qui sont dus au GABA libéré par les dendrites. Alors, maintenant, j'aimerais évoquer les types de décharge des deux neurones que nous avons vus, neurones donc situés dans le noyau cochléaire antéro-ventral, qui interviennent dans les deux circuits de localisation binaurale de la source sonore dans le plan horizontal. Alors, nous avons vu qu'il s'agit presque exclusivement de neurones en buisson sphérique, sauf les globulaires dans le circuit qui détecte la disparité d'intensité et ceci du côté contralatéral. Alors, quels sont les types de décharges? Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que ces neurones en buisson sphérique déchargent de la même façon que des neurones qui répondent ici que des neurones auditifs qui répondent à de fortes fréquences sonores, c'est-à-dire avec un pic d'abord élevé, puis des décharges qui sont en quelque sorte, qui se maintiennent à un certain niveau. Qu'en est-il maintenant des cellules ou neurones en buisson globulaire? Eh bien, leur mode de décharge est distinct du mode de décharge des cellules en buisson sphérique, toujours pour des réponses haute fréquence, puisque ceci s'apparente effectivement au mode de décharge que l'on voit sur les neurones auditifs, sauf que s'y ajoute ici une encoche. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer un mode de décharge comme celui-ci et un mode de décharge distinct, ou plutôt je devrais dire, qu'attend-on compte tenu des afférences que reçoivent ces cellules en buisson sphérique et ces cellules en buisson globulaire? Que peut-on attendre de leur mode de décharge? Eh bien, leurs afférences sont très différentes. Pour les sphériques, donc, qui dominent totalement la réponse, elles ne reçoivent qu'une à deux afférences des neurones auditifs, En revanche, pour les cellules en buisson globulaire, elles reçoivent, elles, un beaucoup plus grand nombre d'afférences. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ce que l'on pense actuellement, c'est que la cellule en buisson sphérique, qui reçoit donc une ou deux afférences, va répondre à la première des deux stimulations, ce qui va lui permettre de garder une décharge extrêmement fine et en quelque sorte débruite les arrivées qui peuvent ne pas être parfaitement synchronisées des différents neurones auditifs. La vision que l'on a pour les cellules en buisson globulaire est différente. On pense que, s'agissant d'un nombre plus élevé d'afférences, ces neurones en buisson globulaire ne déchargent que lorsqu'arrive de façon synchrone un minimum d'influx venant de différentes afférences. Donc, ils ne vont décharger que lorsqu'un certain seuil est atteint, c'est-à-dire lorsqu'il y a une synchronisation suffisante des influx venant des neurones auditifs. Dans tous les cas, ceci conduit à une décharge au niveau des cellules en buisson, qu'elles soient sphériques ou globulaires, qui en quelque sorte débruitent le signal qu'elles ont reçu des neurones afférents qui, lui, pouvaient être d'une synchronisation très imparfaite avec le signal sonore, y compris dans non seulement la synchronisation, mais dans le délai de temps, comme le délai d'arrivée au complexe olivaire supérieur. Alors maintenant, nous allons passer à un tout autre sujet. Nous allons maintenant considérer la localisation des sources sonores dans le plan vertical. Elle n'est fondée ni sur la disparité d'intensité, ni sur le délai de temps. Nous allons le voir, elle est fondée sur l'analyse, la variation du contenu spectral des messages sonores. Le circuit neuronal qui est impliqué est totalement indépendant des précédents. C'est un circuit monaural, contrairement aux deux autres qui étaient binauraux. Il ne passe pas par le complexe olivaire supérieur et il ne passe pas non plus par le noyau cochléaire antéro-ventral. Alors, je vais brosser à grands traits. Alors, je vais souligner quelques points historiques en ce qui concerne la localisation de la source sonore monaurale. Et pour l'instant, je vais m'en tenir aux données établies chez l'homme. Ce sont Angel et Fitt qui, en 1901, alors ceci nous renvoie, comme on avait vu tout précédemment avec Rayleigh, 1907-1901, mais à nouveau, c'est un papier que je vous invite à lire, parce qu'on se rend compte que ce qui est repris 70 ans plus tard ne se traduit en fait que par, pour l'essentiel, au moins pendant une dizaine d'années, jusqu'aux années 75, que par une confirmation de ce qui était déjà décrit dans ce papier d'origine. Alors, qu'ont fait ces auteurs? Ils ont étudié une série de patients qui souffraient d'une surdité unilatérale. Et ils ont montré qu'ils avaient gardé une aptitude à localiser la source sonore. Ils montraient dans un autre article publié la même année que ces patients ne pouvaient pas localiser des sources sonores s'il s'agissait de sons purs. Ils ne pouvaient localiser que des sources sonores comportant un large spectre de fréquences et comportant des fréquences moyennes. Il concluait que cette localisation est fondée sur la modification des ondes sonores lorsqu'elles rencontrent le pavillon de l'oreille, qui devrait, selon leur fréquence, être amortie ou amplifiée. Mais dans ce papier, il y a déjà une quantité d'informations. Il y a déjà l'idée que la localisation qui met en jeu une seule oreille, la localisation monorale, est fondée sur n'est possible que lorsque l'on a affaire à un spectre large bande qui contient des fréquences moyennes, et nous allons y revenir, et que cette localisation était possible grâce au pavillon de l'oreille. Puis vinrent les travaux de Fischer et Friedman en 1968, puis ceux de Roffler et Butler la même année, qui montrèrent que si on introduit un tube dans le conduit auditif externe suffisamment long qui déborde du pavillon de l'oreille d'une dizaine de centimètres, il n'est plus du tout possible de localiser avec une seule oreille la source sonore. Ces papiers indiquaient qu'il s'agit de la source sonore localisée dans le plan vertical. Un autre travail consistait en l'obturation des circonvolutions du pavillon de l'oreille. Et montrait que, de même, on perdait la localisation monorale dans le plan vertical. Donc, tout indiquait qu'il y a des indices de localisation possible avec une seule oreille qui viennent, donc, c'est ce qui est schématisé ici, d'un ensemble en particulier de réflexion des ondes sonores qui sont indiquées sur ce schéma par les tracés en vert, violet et rouge, qui sont donc réfléchis ou non au niveau du conduit auditif. Puis les choses se précisaient, et nous allons y revenir avec d'autres exemples chez l'animal, lorsqu'en 1974, Ebrank et Reint montraient que les fréquences qui étaient utiles pour localiser la source sonore dans le plan vertical étaient des fréquences qui, chez l'homme, devaient excéder 4 kHz. Enfin, il fut démontré que l'on pouvait à volonté changer la perception qu'un auditeur peut avoir de la localisation de la source sonore dans le plan vertical en modifiant le contenu spectral, c'est-à-dire en baissant l'amplitude de certaines bandes spectrales ou au contraire en les majorant. Et finalement, Musican et Butler, en 1984, montrèrent que lorsque on cherche à localiser une source sonore dans le plan horizontal, eh bien, ceci est possible grâce à l'écoute binaurale, mais que, comme je vous l'ai dit au début de ce cours, persiste une ambiguïté sur la position de la source sonore, se situe-t-elle devant ou derrière le locuteur. Et il montrait que cette information avant-arrière est donnée par le contenu spectral de la source. Et donc, à nouveau, on peut modifier à volonté ce contenu spectral et vous donner l'impression, bien que vous voyez un haut-parleur devant vous, que le son vient de votre dos. Alors, l'oreille externe est composée du pavillon et du conduit auditif externe. Ce qui nous intéresse, c'est les paramètres qui vont permettre la localisation de la source dans le plan vertical. Pour autant, il y a modification du contenu spectral par le passage à travers l'oreille et de l'oreille externe, indépendante des clés de la directionnalité. Je m'explique. Chez l'homme, on a pu montrer qu'il y a une amplification de certaines fréquences qui est directement en rapport avec une amplification qui se produit dans le conduit auditif externe et qui correspond à une onde stationnaire. Ceci a été montré par Rose, et ce que l'on observe, comme vous le voyez ici sur ce diagramme, c'est que l'on a une amplification qui correspond à des fréquences qui sont, on peut dire, centrées sur 3,4 kHz. Elles correspondent à la résonance du conduit auditif externe. Alors, cette résonance n'est pas liée, ne porte pas d'information de localisation sonore, comme nous allons le voir. Si maintenant on place ce qui a été fait en 1992 dans l'oreille humaine par Middlebrook et Green, deux petits microphones situés à 9 mm d'écart. L'un, indiqué ici par proximal, est un microphone qui est tout proche du tympan, et l'autre, 9 mm en avant, et que l'on enregistre le spectre sonore. Que voit-on ici en abscisse, donc les décibels, et en ordonnée les décibels, en abscisse les fréquences. Eh bien, ici, ce qui a été délivré, c'est un spectre sonore de large bande. Le spectre n'est pas le même pour le micro qui est placé proche du tympan et celui qui est plus distant du tympan. Alors, me direz-vous, a-t-on affaire à des changements qui correspondent, qui sont des indices de la localisation de la source sonore? Comment, en d'autres termes, va-t-on faire la part de ce qui est en rapport avec les changements qu'introduit la tête en rapport avec des signaux directionnels ou une constante qu'introduit la tête, quelle que soit la localisation de la source sonore? Eh bien, ce problème a été traité de la façon suivante. On a distingué la fonction de transfert de la tête de la fonction de transfert directionnel. Cette fonction de transfert directionnel, elle est obtenue en divisant ce spectre enregistré par un microphone, ici 2, donc les tracés bruts, par le spectre de fréquence incident, le son à large bande, et par une constante qui représente les variations du spectre qui sont constantes, quelle que soit la localisation de la source sonore. Eh bien, dans ce cas, Si l'on traite ces données ainsi, on obtient une courbe de ce type, avec toujours en abscisse l'intensité sonore et les fréquences, qui indique que le micro soit placé tout proche du tympan ou à distance, le spectre est le même. Par conséquent, ceci invalide un rôle possible du conduit auditif externe, puisque la fonction de transfert, en ce qui concerne donc la fonction de transfert directionnelle, n'est pas modifiée par l'emplacement du microphone, quel que soit l'endroit où on le place. Et ceci met en évidence un certain nombre d'encoches sur lesquelles je vais revenir. Alors, que devient cette fonction maintenant de transfert directionnel de la tête lorsque l'on fait varier la position de la source sonore dans le plan vertical? Eh bien, ici, on la fait varier de moins 15 degrés d'élévation à plus 7,5 degrés. Ce que l'on voit, c'est des tracés qui sont grossièrement les mêmes, mais ce qui domine, c'est l'existence de cette encoche d'intensité qui se déplace le long de l'axe fréquentiel en fonction de la position de la source sonore dans le plan vertical. Alors ici, on a un tracé un peu plus affiné. Position 0, position moins 7,5 degrés dans le sens de l'élévation ou plus 7,5 degrés dans le sens de l'élévation. Et l'on voit donc que cette encoche se déplace avec la position, cette encoche fréquentielle se déplace avec la position de la source sonore dans le plan vertical. Alors, les questions qui se sont ensuite posées, c'est bon, très bien, nous avons ces encoches, mais on a ces encoches dont j'ai indiqué jusqu'à présent cette première encoche, mais vous l'avez vu, il existe des encoches haute fréquence aussi. Quelles sont celles dont tire parti un homme ou un animal pour localiser la source sonore dans le plan vertical? Alors nous passons maintenant, nous quittons l'homme pour aller vers le chat. Alors, le chat est l'animal qui a été le plus utilisé pour déchiffrer les paramètres mis en jeu dans la localisation de la source sonore dans le plan vertical, comme pour déchiffrer le circuit neuronal associé. L'objectif est donc de répondre à la question suivante. Dans ce spectre, et donc ces encoches, quelles sont celles qui sont importantes pour localiser la source sonore dans le plan vertical? Alors, trois chats vont être soumis à un certain nombre d'expériences dans lesquelles on va leur délivrer des bruits large bande, soit s'étendant de 5 à 55 kHz. Alors, les chats domestiques détectent des très hautes fréquences jusqu'à 85 kHz, soit ce spectre-ci, mais amputé de sa région haute fréquence ou au contraire amputée de sa région moyenne fréquence. Les basses fréquences ne sont pas présentes dans le spectre. Il s'agit de tests comportementaux dans lesquels les chats ont été entraînés à identifier par le mouvement de la tête la localisation de la source sonore et on mesure donc ces déplacements de la tête. Que voit-on ? Le spectre est complet, c'est l'expérience contrôle de 5 à 55 kHz et on mesure les pourcentages donc, de changement de position de la tête lorsque on élève la source. Eh bien, on voit qu'il y a rapidement un changement de position de la tête. Même chose dans le sens négatif, en bas, les réponses moyennes. Maintenant, on va amputer le spectre de 55 à 55 kHz de sa région 18 kHz à 55 kHz, c'est-à-dire de ses hautes fréquences, et on procède à la même expérience. Alors, on va déjà voir que les réponses sont un peu dispersées pour les différents champs, mais tout de même, ils sont bien capables de localiser la source sonore dans le plan vertical avec une efficacité ici comparée à celle qu'avait un spectre allant de 5 à 55 kHz qui est malgré tout moindre. Donc on peut dire que les hautes fréquences du spectre participent à la localisation de la source sonore. Et maintenant, que se passe-t-il si, au contraire, on a amputé le spectre des fréquences moyennes, c'est-à-dire de 5 à 18 kHz? Eh bien, il y a toujours détection de la source sonore dans le plan vertical de sa localisation. On obtient une détection qui, comparée à celle que l'on avait lorsque tout le spectre était présent et qui est indiqué par BBN, n'est pas tout à fait aussi bonne, mais est tout de même très bonne. D'où le fait que les expériences que nous allons... C'est une autre expérience. Les expériences que nous allons voir maintenant sont essentiellement... ont essentiellement pour but de comprendre à quoi correspond cette encoche sonore et comment est-elle codée dans le circuit neuronal correspondant. Alors, le circuit neuronal correspondant, eh bien, où il commence d'abord au niveau des neurones auditifs. Et ce qui a été fait, c'est d'enregistrer dans les mêmes conditions les décharges des neurones auditifs. Vous le savez qu'on peut les classer on peut les classer en trois groupes, dont deux extrêmes, selon leur taux de décharge spontanée. Ceux qui ont un haut taux de décharge spontanée ont un bas seuil. Ceux qui ont un bas taux de décharge spontanée ont un seuil élevé. Eh bien, que voit-on ? Un spectre qui est très voisin du spectre acoustique. Par conséquent, les neurones auditifs reflètent fidèlement le spectre acoustique et il y a de fait une relation de linéarité entre l'intensité de l'intensité du pour chacune des fréquences et le taux de décharge, avec une relation linéaire, mais dont la pente est distincte. Pour les neurones qui ont un haut taux de décharge spontané, la pente est de 6. Pour ceux qui ont un bas taux, elle est de 2,5. Ceci indique simplement une dynamique de réponse qui est beaucoup plus importante pour les neurones qui ont un haut taux de décharge qu'un bas taux, mais les neurones à haut taux, vous pouvez l'anticiper, vont saturer beaucoup plus rapidement en fonction de l'intensité sonore que les neurones qui ont au contraire un seuil élevé. Alors, autre circuit, ce circuit, nous allons le voir, passe par, bien sûr, le noyau cochléaire. Mais c'est un circuit totalement distinct. Il ne passe pas par le noyau cochléaire entéro-ventral, mais il passe par le noyau cochléaire dorsal, abrégé ici en DCN. Ici est figuré le complexe olivaire supérieur et là le colliculus inférieur. Vous revoyez ce dont nous avons discuté les deux cours précédents, c'est-à-dire une à partir du noyau cochléaire antéro-ventral une localisation donc temporelle qui passe par l'olive supérieure moyenne et qui est traitée en contrôle latéral, une localisation qui correspond à la disparité d'intensité créée dans l'olive supérieure latérale, et ce noyau cochléaire dorsal qui court-circuite totalement ce complexe olivaire et vient directement se projeter sur le colliculus inférieur au niveau de son noyau central. Donc, ce que nous allons voir, c'est le mode d'analyse spectrale qui est opéré dans l'ensemble de la voie et donc, principalement, pour ce que nous allons considérer maintenant au niveau du noyau cochléaire dorsal. Alors, ce noyau cochléaire reçoit donc les projections centrales, donc les terminaisons axonales, des neurones auditifs qui innervent les cellules ciliées internes de la cochlée. Ces axones bifurquent une première fois et donnent deux branches, l'une qui se projette sur le noyau cochléaire antéro-ventral. Donc là, ici, les cellules en buisson que nous avons vues lors des cours précédents, et une autre branche qui va bifurquer une seconde fois pour venir innerver le noyau cochléaire postérieur ventral et le noyau cochléaire dorsal qui nous intéresse. Avec au niveau de chacun de ces noyaux, une carte tonotopique. Et en ce qui concerne le noyau cochléaire dorsal, indiqué ici, les fibres de basse fréquence qui sont les plus superficielles, puis plus on va vers les fibres de haute fréquence, plus on rentre dans le noyau cochléaire dorsal lui-même, dans sa profondeur et donc dans son extrémité. Alors, il suffit quelquefois d'explorer l'organisation des différents noyaux auditifs centraux, en particulier de leur carte tonotopique, pour se donner une idée de leur rôle. Alors, je m'explique. L'olive supérieure médiane, nous l'avons vu, qui traite le délai temporel, eh bien, elle a une surreprésentation dans sa carte tonotopique des basses fréquences. L'olive supérieure latérale, en miroir, elle traite les hautes fréquences. Sa carte tonotopique est principalement dédiée au traitement des hautes fréquences. À partir de ce que je viens de vous dire, comment va être la carte tonotopique du noyau cochléaire dorsal? Eh bien, je vois qu'il y a déjà la réponse. Eh bien, elle va être biaisée du côté des fréquences intermédiaires. Donc, ce biais donc, est donc la signature du fait que ce qui va être traité au niveau du noyau cochléaire dorsal, c'est principalement cette encoche des moyennes fréquences. Alors, maintenant, voyons quels sont les éléments qui fondent l'implication du noyau cochléaire dorsal dans la localisation de la source sonore. Les axones du noyau cochléaire dorsal, nous l'avons vu, se projette directement sur le colliculus inférieur. Il forme ce que l'on appelle la strie acoustique dorsale. Alors, la voilà ici, la strie acoustique dorsale, hein, qui vient donc se projeter en contrôle latéral sur le colliculus inférieur. Dans cette région, elle est presque isolée à part quelques fibres de la strie acoustique intermédiaire qui viennent de neurones dont je n'ai pas encore parlé, neurones multipolaires du noyau cochléaire ventral. Vous pouvez pour l'instant les oublier, leur implication dans la localisation de la source sonore paraît jusqu'à présent marginale. Ce qui a été fait, c'est de pratiquer chez le chat des lésions de cette strie acoustique dorsale et d'observer quels étaient les effets physiologiques. Eh bien, il n'y a aucune modification du seuil auditif. Donc, ces neurones ne sont pas impliqués dans le seuil. Des chats peuvent continuer, après section, alors qu'ils ont été entraînés, à différencier deux locuteurs qui sont dans des positions différentes dans l'espace. Mais lorsque l'on a affaire à une source sonore dont on s'intéresse à sa position dans le plan vertical, eh bien, dans cette situation où on a sectionné la strie acoustique dorsale, les performances des chats sont bien moindres. Nous verrons tout à l'heure un autre élément qui implique le noyau cochléaire dorsal, je vais le mentionner en réalité tout de suite, dans cette localisation de la source sonore, dans le plan vertical, je l'ai redit, cette localisation implique le pavillon de l'oreille, eh bien, il y a des afférences sur ce noyau cochléaire dorsal qui sont des afférences somatosensorielles qui sont en rapport avec la détection de la position de l'oreille dans l'espace. Ceci est particulièrement vrai pour les espèces, mais paraît-il, on peut y arriver nous aussi, qui peuvent bouger le pavillon de l'oreille pour localiser la source sonore. Donc ceci donne bien un lien entre l'oreille externe et le noyau cochléaire dorsal. Dans ce noyau cochléaire dorsal, toujours indiqué ici, donc sur ce schéma du noyau cochléaire, donc antéro-ventral, AV, postéro-ventral, PV, DCN dorsal, on a plusieurs types de cellules. Les cellules qui dominent sont les cellules pyramidales, indiqué par ce cercle plein avec donc les expansions, les arborisations dendritiques, ce sont des cellules fusiformes, elles aussi, et les cellules indiquées ici qui sont les cellules géantes. Cependant, il y a d'autres types de cellules dans ce noyau cochléaire dorsal, dont vous voyez ici une autre représentation. Dans l'épaisseur de ce noyau cochléaire dorsal, on distingue trois couches. La couche intermédiaire est celle où se situe le corps cellulaire des cellules pyramidales. Elles sont bipolaires, leurs dendrites apicales se projettent dans la couche superficielle, dite couche moléculaire, et leur gangrite basale dans la couche dite basale. Alors, dans cette couche très superficielle, il y a quantité d'interneurones inhibiteurs. Ces interneurones inhibiteurs forment des synapses avec l'arborisation dendritique superficielle, donc de la couche moléculaire, des neurones pyramidaux. Il y a aussi d'autres neurones sur lesquels, dont je vais dire un mot, en particulier ces neurones granulaires avec leur axone donc, qui parcourt en quelque sorte toute la longueur du noyau cochléaire, je les mentionne parce que c'est sur eux qu'arrivent les afférences somatosensorielles. Alors, voyons le mode de décharge de ces neurones du noyau cochléaire dorsal. Nous allons nous arrêter à deux types de décharges qui sont les décharges de type poseur. Pourquoi ? Le neurone décharge à la mise en place de la stimulation, puis cesse de décharger, donc cette immense pause de plusieurs dizaines de millisecondes, puis reprend son taux basal de décharge. Et l'autre type de profil est un profil de décharge à la mise en place, mais on n'a pas de pause, on a une diminution progressive des potentiels d'action et qui est de façon conventionnelle appelé onset G. Alors la question qui était posée est la suivante. Quels sont parmi les neurones du noyau cochléaire ceux qui sont impliqués dans la détection de la localisation de la source sonore dans le plan vertical? Donc, quels sont ceux dont le taux de décharge va être modulé par le changement de la localisation de la source sonore dans le plan vertical? Alors, ici, vous voyez différents neurones qui sont symbolisés donc de façon différente. On voit que ne varie en fonction de la localisation de la source sonore que le taux de décharge des deux types que j'ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire du type poseur et du type onset G. Tous deux, donc, correspondent, contrairement aux autres neurones, à des neurones présents dans le noyau cochléaire dorsal. Alors, maintenant, on peut se demander que devient la décharge de ces types poseurs ou onset, ici nous allons voir poseur, lorsque l'on fait varier la position de la source sonore, à la fois de le sens azimutal et dans le sens de l'élévation. Alors, ceci, en quelque sorte, est une définition, parce que ce sont des travaux beaucoup plus récents, beaucoup plus fines, de la sensibilité des réponses poseurs à la variation du taux de décharge lorsque l'on varie la position de la source sonore dans le sens azimutal, il y a des variations mais qui ne sont pas très importantes, versus dans le sens de l'élévation. Eh bien, on voit que lorsque l'on est en position zéro élévation, quelle que soit la position azimutale, on a un taux minimal de décharge qui est présenté par ce gris clair, ce qui signifie que ces neurones poseurs ne déchargent pas lorsque la source sonore est en position zéro. Donc, pour ces neurones inhibiteurs, pour ces neurones, pardon, qui sont des neurones excitateurs, excusez-moi, ils vont décharger et vont cesser de décharger lorsque il y a donc modulation de leur décharge par la position de la source sonore et en particulier inhibition lorsqu'elle se situe à l'angle zéro dans le plan vertical. Alors, au total, aujourd'hui, il est présenté le schéma suivant. On classifie les différents types de décharges, en particulier on appelle décharges de type poseur, décharges des neurones dites de type 4. Ce que l'on voit, c'est que cette décharge inhibitrice dont je vous ai parlé tout à l'heure est accordée en fréquence. C'est-à-dire que ici, vous avez donc un grand nombre de potentiels d'action. Vous avez affaire à un neurone poseur dont la fréquence caractéristique se situe à 11 kHz. Si la stimulation est une stimulation hors fréquence caractéristique, on voit qu'il y a donc un taux de décharge important qui est inhibé lorsqu'on atteint la fréquence caractéristique. Donc ces neurones poseurs sont des neurones accordés en fréquence et qui, donc, stimulés de façon adéquate par une source située dans le plan vertical en position zéro, vont avoir une baisse de leur taux de potentiel d'action. Le schéma qui est proposé aujourd'hui est le suivant. Les cellules poseurs, on sait que les cellules pyramidales sont de type poseur. Il y aurait deux types d'inhibition qu'elles recevraient et qui expliqueraient leur baisse de taux de décharge à la fréquence caractéristique. D'une part, des neurones interneurones inhibiteurs, nommés ici sous le terme type 2, accordés en fréquence, et donc qui permettraient ce taux, cette baisse du taux de décharge accordée en fréquence des neurones poseurs, et d'autres neurones dont le spectre, qui sont peu accordés en fréquence, qui sont dits W et qui, au demeurant, ne sont pas localisés dans le noyau cochléaire dorsal, mais dans le noyau cochléaire postéro-ventral. Alors, j'aimerais insister sur le caractère extrêmement spéculatif de ce modèle, qui, pour l'instant, n'a comme élément expérimental que le fait que les cellules pyramidales ont un taux de décharge de type poseur avec une inhibition à leur fréquence caractéristique et que les interneurones inhibiteurs ont un profil lui aussi de décharge, lui aussi dépendant de la source sonore et accordé en fréquence. Alors, avec tout ce que je vous ai dit sur la localisation de la source sonore dans le plan vertical, eh bien, nous en venons à l'idée que, finalement, chacun doit faire l'apprentissage de ses oreilles. Chacun doit apprendre le type d'information que le pavillon externe de ses deux oreilles, qui au demeurant ne sont pas toujours absolument identiques, lui procure, c'est-à-dire quelle est la fonction de code de transfert du spectre sonore qui lui est propre. Alors, ça c'est juste pour montrer qu'il y a des laboratoires dans lesquels les oreilles sont bien distinctes. C'est celle d'un montage fait par l'un de mes collaborateurs. Alors, je vais peut-être passer directement à cette... Avant de passer à une expérience assez amusante pour clore ce cours, j'aimerais ici présenter ce schéma qui permet de mesurer le peu de contribution qu'a le délai temporel. Et on aurait le même schéma pour la disparité d'intensité, pour localiser une source dans le plan vertical. Alors ici, donc, varie le délai temporel et les décharges donc en fonction de la position de la source sonore dans le plan azimutal et selon l'élévation. Alors, si on trace pour avoir une idée de la façon dont ce que donne comme clé le délai temporel, on va tracer donc des parallèles pour ce qui concerne la localisation dans l'axe azimutal, on va tracer des parallèles par rapport à l'axe azimutal. Et on voit une très grande variation de couleur, ce qui signifie que le délai temporel donne beaucoup d'informations sur la localisation de la source sonore dans le plan azimutal. En revanche, si on s'intéresse à l'élévation, eh bien, le délai temporel, dans certaines positions, ne donne quasiment aucune information. La couleur est homogène, sauf ici où il y a un léger dégradé de couleur. Donc, on peut en conclure la chose suivante, puisqu'on aurait la même type de graphe avec la disparité d'intensité, ceci corrobore le fait que ce ne sont pas les indications de différence d'intensité sonore ou de délai temporel, c'est-à-dire d'écoute binaurale, qui permettent de localiser la source sonore dans le plan vertical. Alors, l'expérience avec laquelle je vais conclure ce cours est une expérience en rapport avec, je dirais, à chacun ses oreilles. Alors, c'est un travail qui a été fait chez l'homme et qui a consisté à introduire des moules dans le pavillon de l'oreille. Donc ici, l'oreille en quelque sorte d'origine, et ici, l'oreille modifiée par ce moule. Quatre individus ont donc eu la pose, en quelque sorte, de ces moules sur chacune des deux oreilles. Et on s'est, dans un premier temps, intéressé à la fonction de transfert. Donc, il s'agit du spectre sonore en fonction de l'élévation de la source, et les différentes couleurs indiquent comment les bandes fréquentielles voient leur amplitude tantôt augmenter, tantôt s'abaisser. Donc, un maximum d'amplitude, donc l'augmentation de l'amplitude en rouge foncé, et plus l'amplitude baisse, plus au contraire on atteint le blanc. Alors la première chose que l'on peut noter, c'est qu'aux basses fréquences, et ça on le savait, jusqu'à environ 4 kHz, on peut introduire les moules que l'on veut, on ne change pas la fonction de transfert directionnel de la tête. Lorsque le moule est introduit, en revanche, et qu'on s'intéresse aux hautes fréquences, on voit que le spectre, pour les différentes fréquences, varie en amplitude. Tantôt, les amplitudes augmentent, rouge foncé, tantôt, elles baissent, en blanc. Alors, on a demandé à ces individus de localiser la source sonore dans le plan vertical. Vous vous intéressez au résultat ici en A des quatre individus, dans le plan vertical et dans le plan azimutal. En ordonnée le plan vertical, en abscisse le plan azimutal. Très bonne localisation. On met le moule dans les oreilles des quatre personnes, immédiatement. On a perte de la localisation dans le plan vertical. On garde par contre une bonne localisation dans le plan azimutal. On laisse les moules pendant un certain temps. Alors que voit-on ? On voit ici B, C et D une récupération de l'aptitude à localiser la source sonore dans le plan vertical, avec une aptitude qui est un peu différente d'un individu à l'autre. Ils ont tous de 22 à 40 ans. Il n'y a pas de corrélation qui sont faites avec l'âge. Mais au bout de 5 à 6 semaines, selon les personnes, elles récupèrent une aptitude normale à localiser la source sonore dans le plan vertical avec ces moules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune part, en quelque sorte, cognitive dans ces expériences, puisqu'on ne dit jamais à la personne si elle a réussi ou non à localiser correctement la source. Donc, c'est de l'auto-apprentissage non guidé, en quelque sorte. Alors, que croyez-vous qu'il advient lorsque l'on supprime les moules ? Eh bien, immédiatement, ceci étant E, les individus sont capables de localiser la source sonore comme ils le faisaient auparavant. Ce qui signifie que, en l'espace donc de 6 semaines, on a établi un autre réseau avec d'autres coordonnées de la localisation de la source sonore dans le plan vertical, que ce réseau n'a en rien effacé le réseau d'origine qui correspond donc au pavillon de l'oreille sans moule des différents auditeurs. Donc deux réseaux qui peuvent donc en quelque sorte être présents. Alors certains parlent de l'apprentissage d'un langage de localisation, pourquoi pas? Alors ce sont des expériences qui ont été faites il y a un petit moment, puisqu'il y a une dizaine d'années. Eh bien, je dirais que on ignore encore les bases qui sont sûrement complexes des circuits neuronaux mis en jeu dans ces processus d'adaptation, mais qu'en tout état de cause, on attend une plasticité qui est ici parfaitement illustrée, importante du système auditif, au moins durant tout le développement de l'enfant, puisque, qu'il s'agisse de la localisation binaurale, la tête va effectivement devenir plus grande, donc il va falloir l'ajuster. Les oreilles aussi vont être différentes, donc il y a des processus, il faut s'adapter à ses oreilles. Mais ce qu'il est clair, c'est qu'au moins pendant une certaine période de la vie, on garde une plasticité particulièrement intéressante pour localiser la source sonore dans l'espace. Bon. Alors, j'en viens maintenant à la fin de ce cours pour dire que donc nous avons vu la localisation de la source sonore durant les 3 derniers cours, système binaural, système mononaural, avec finalement des connaissances très importantes au niveau du délai temporel, mais un débat considérable pour savoir si ce qui a été observé chez les oiseaux est transposable aux mammifères. Des connaissances un peu moindres, mais qui commencent à être étayées avec ce circuit, avec cette rétro-contrôle GABA-ergique pour la localisation des sources haute fréquence dans le plan azimutal. Et puis, il faut bien dire là, un circuit donc, de détection spectrale qui est tout à fait intéressant, mais qui vraiment attend des contributions scientifiques, des travaux scientifiques importants pour être davantage déchiffrés. Alors maintenant, pour conclure, je vais vous donner le titre de ce que nous allons traiter l'an prochain, écouter dans le bruit. Évidemment, nous commencerons par définir ce qu'est le bruit, ce que sont les bruits plutôt, et puis nous verrons donc les différents aspects du traitement du bruit. Nous reviendrons sur le problème d'écoute binaurale, mais dans un contexte tout à fait différent, et puis donc la part donc, du bruit dans l'activité des circuits neuronaux jusqu'au cortex. Merci de votre attention. J'ai ménagé une petite pause avant l'exposé, dont je vous rappelle que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Anthony Gummer, qui va donc discuter la membrane tectoriale et les processus d'amplification cochléaire. Et donc, nous nous donnons une pause de quelques minutes avant d'écouter cette présentation qui sera faite en anglais. Mais je vous invite, je pense que la plupart d'entre vous pourront parfaitement suivre cet exposé. Merci de votre attention et à l'année prochaine.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.